6h21, la réforme ferroviaire contestée devrait être bouclée cette semaine. Cet après-midi, la commission mixte paritaire du Parlement va tenter de fixer le texte final du projet de loi avant un nouveau passage à l'Assemblée mercredi et jeudi au Sénat. Si les deux assemblées sont d'accord, le projet sera adopté définitivement. Bonjour Jean-Baptiste Djebari.
Bonjour Pierre Veil.
Vous êtes député La République En Marche de la Haute-Vienne, rapporteur de la loi SNCF. Sur quoi allez-vous discuter en commission paritaire des sujets sociaux ?
Pas seulement de sujets sociaux, nous avons quelques petits sujets sociaux d'ajustement, mais nous allons surtout parler de gouvernance et de sujets techniques comme la régulation tarifaire des péages.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
C'est-à-dire que sur la gouvernance, il y a encore quelques petits ajustements à faire de manière à avoir un groupe public unifié et de s'assurer notamment de l'indépendance de SNCF Réseau pour être conforme à la directive européenne et pour permettre que la concurrence soit bien saine et loyale pour les entreprises ferroviaires qui viendraient opérer aux concurrences. Et puis, pour la partie régulation tarifaire, nous avons encore quelques petits sujets, justement, pour garantir les ressources de SNCF Réseau, qui, comme vous le savez, est très endetté, 46 milliards, et qui fait l'objet d'une reprise de la dette de 35 milliards d'euros, ce qui est inédit et ce qui est un engagement fort de l'État et un gage de sa confiance dans la SNCF.
La CFDT veut un volontariat total pour les transferts de cheminots chez un rival de la SNCF après l'ouverture de la concurrence. Que répondez-vous ?
C'est un sujet que nous discutons avec eux depuis 3 mois. Nous avons, et ça a été fait au Sénat par la ministre et la majorité au Sénat, nous avons stabilisé le texte sur un volontariat qui est élargi à l'échelle régionale. C'est une position aujourd'hui de compromis qui nous convient à nous, majorité présidentielle.
Les syndicats Sudrail ou la CGT restent mobilisés, hein, grève perlée jusqu'au 28 juin. Demain, une journée de colère cheminote. Ils veulent des concessions supplémentaires, notamment sur la révision de la convention collective ferroviaire.
La convention collective, les discussions vont commencer dès la fin de semaine. Vous savez que l'État s'est engagé à être un observateur vigilant, que sera créé un observatoire du dialogue social et que cette convention devra être négociée et conclue avant le 1er janvier 2020. Donc l'État sera pleinement présent et les discussions doivent commencer dès que possible.
Les syndicats peuvent-ils poursuivre la grève une fois que la loi sera définitivement votée ?
Moi, je ne le souhaite pas. Cette grève, elle dure depuis des mois. Elle est extrêmement nocive pour les usagers, pour les entreprises. Je pense notamment aux céréaliers. Elle aura coûté très cher, plus de 400 millions d'euros à la SNCF. Elle pourrait empêcher les étudiants de se déplacer pour leurs examens. Donc, je souhaite évidemment que cette grève s'arrête le plus tôt possible et que nous nous projetions dans ce qui est maintenant devant nous, c'est-à-dire la conclusion de la convention collective que vous évoquiez.
Jean-Baptiste Djebari, Pascal Pavageau, le secrétaire général de Force Ouvrière, a mis en garde le gouvernement hier sur France Inter. Il craint, je le cite, une dérive vers la radicalité des salariés et des mouvements sociaux. Faute de négociation, nous avons un problème de méthode avec des passages en force sans écouter. C'est ce que dit Pascal Pavageau. Que lui répondez-vous ?
Je réponds que c'est loin de mon quotidien qui consiste à discuter avec tous les syndicats, y compris FO, notamment au début de cette réforme, qui n'était d'accord sur rien avec la réforme ferroviaire. Je rappelle que l'ouverture à la concurrence, c'est un engagement de la France depuis le début des années 90, ça a été voté dans le quinquennat précédent, et que c'est une demande des régions, donc que c'est pleinement démocratique. Moi, je pense que dans cette réforme, il faut que chacun soit dans son rôle. Nous avons la légitimité politique de porter une réforme pour le système ferroviaire. Et évidemment, nous avons le devoir de discuter avec les représentants des syndicats de manière à construire une réforme, un cadre social qui soit adapté aux enjeux de notre temps.
Votre opinion sur cette note de 3 fidèles d'Emmanuel Macron qui dénonce l'ensemble de sa politique actuelle, je les cite, elle ancrerait cette politique l'image d'un pouvoir indifférent à la question sociale ou encore l'ambition émancipatrice du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de concitoyens.
Oui, je crois qu'il y a un devoir de pédagogie toujours et encore et il faut assumer l'action que nous menons. L'action, c'est celle de libéraliser l'économie et de créer de nouvelles protections appliquées à la SNCF. C'est assumer d'ouvrir à la concurrence et de poser un cadre protecteur, notamment dans le cadre de la branche. C'est l'action que nous menons et je crois que nous devrons toujours et encore l'expliquer.
Philippe Aguillon, un de ses proches d'Emmanuel Macron et qui est auteur de cette note qui a été remise au président, dit dans une interview au Point, Emmanuel Macron n'a pas été élu pour appliquer le programme de Juppé.
Non, il a été élu pour appliquer le programme d'Emmanuel Macron, ce que nous faisons. Et comme vous le savez, l'actualité, en tout cas l'actualité législative, est dense à l'Assemblée. Nous allons maintenant entamer les lectures, notamment des projets de loi sur l'assurance chômage, qui va apporter de nouveaux droits pour les démissionnaires, pour les indépendants. Le texte sur la formation professionnelle. Donc je crois que s'il y avait, comme certains le disent, une deuxième, une jambe plus sociale, elle arrive et c'est la cohérence de notre projet.
L'image du président des riches, c'est pas une image qui vous inquiète, qui perdure?
C'est une caricature médiatique qui est efficace, mais c'est assez loin de la réalité de l'homme que je connais et du projet que nous défendons.
Y a-t-il trop d'aide sociale en France? Faut-il un coup de rabot?
Non, il n'y a pas trop d'aide sociale en France. Il y a certainement une réflexion à mener sur parfois des aides qui sont multiples, parfois un taux de recours qui est important. Et je me rappelle qu'à l'occasion de la dernière mandature, le rapport Sirugue avait proposé notamment de fondre un certain nombre de minima sociaux, de les simplifier. Et je pense que c'est des pistes que nous devons avoir devant nous. Mais en aucun cas, les aides sociales ne doivent se lire à l'aune de sur le prisme simplement budgétaire. Elles doivent évidemment être jugées sur leur efficacité et leur utilité sociale.
C'est l'image de ce week-end, hein. Donald Trump qui a sabordé le G7. L'Élysée dénonce l'incohérence, l'inconsistance de l'attitude américaine. Donald Trump est-il un as de la communication politique et diplomatique ou alors un danger sur la scène internationale?
On ne peut pas reprocher à Donald Trump de ne pas être en cohérence avec ce qu'il avait annoncé au cours de sa campagne, mais son action pose un danger qui est fort pour le multilatéralisme, que ce soit pour les questions de sécurité, on l'a vu avec l'Iran, ou sur les questions commerciales, et donc son action est effectivement inquiétante pour la sécurité collective.
Êtes-vous choqué par la venue du rappeur Medine au Bataclan pour des concerts en octobre prochain? Crucifions les laïcars, il se présente comme un islamo-caïra, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit dans une interview, et crucifions les laïcars, c'est une de ses chansons.
Alors j'ai lu ça succinctement hier soir, mais je n'ai pas encore suffisamment d'opinion tranchée sur la question, mais effectivement ce que vous énoncez ici me paraît poser question.
Jean-Baptiste Djebari, député de La République En Marche de la Haute-Vienne, rapporteur de la loi SNCF, merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin.